dire que la gâterie française bénéficie d'une grande réputation parce qu'elle aurait des terroirs bénis des dieux, ce serait extrêmement réducteur et très déterministe.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Toutes les gastronomies du monde étaient assises ensemble le temps d'un dîner, la cuisine française serait celle qui préside la table et anime la soirée. L'invité qui donne le la dans toutes les discussions, la personne vers laquelle tous les regards se tournent, celle qui parle le plus fort aussi. Car historiquement, les arts de la table français ont toujours su s'imposer comme référence internationale en la matière. À tel point que même une courte expérience professionnelle dans un grand restaurant français assure à n'importe quel chef étranger un beau poinçon sur son CV. Mais alors d'où vient ce prestige? Comment analyser l'argument d'autorité dont jouit la cuisine française de par le monde? Est-ce uniquement une histoire de goût? L'explication est à trouver du côté d'un alignement des astres. Quelque part entre la diversité de nos terroirs, les codes esthétiques genre nappes blanches et nombreux couverts qui ont contribué à faire de notre gastronomie un art de vivre savant, les techniques de cuisine passées à la postérité grâce aux ouvrages de chefs comme Auguste Escoffier, Marie-Antoine Carême, Paul Bocuse, mais surtout, tout ceci ne serait rien sans des relais économiques, une place géopolitique forte sur l'échiquier mondial, un rapport aux colonies et une organisation centralisée du pays. Ces projecteurs sur la cuisine française sont tels qu'à côté, il y a de quoi s'interroger. Pourquoi, à l'inverse, de si nombreuses autres gastronomies sont-elles restées dans l'angle mort de la scène internationale? En deuxième partie de cet épisode, la chef indépendante Anto Cocagne, d'origine gabonaise et diplômée de Ferrandi, nous raconte ce qu'elle perçoit des différences entre la cuisine familiale et ce qu'elle a appris à l'école. Avec ce regard très vif qu'elle porte sur ses deux horizons culinaires, chef Anto est bien placé pour constater en quoi la cuisine française est perçue comme une référence. Mais d'abord, pour revenir aux sources du prestige culinaire français, j'ai tendu le micro à Vincent Marcillac, maître de conférence en géographie culturelle de l'alimentation à la tête du pôle gastronomie de l'université de Cergy-Pontoise et auteur d'un ouvrage intitulé « Le luxe alimentaire, une singularité française ». Avec lui, nous sommes revenus sur les conditions historiques qui ont conduit le repas à la française à être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Comment la France s'est-elle retrouvée à former chaque année l'élite internationale des arts de la table? Pourquoi les chefs français sont-ils autant des stars, y compris à l'étranger? Et dans quelle mesure le dîner à l'Élysée est-il un attribut du pouvoir politique? Bref, d'où vient l'aura de la cuisine française?
La France a été capable justement d'associer la gastronomie à son soft power, à son influence culturelle internationale, dès le XVIIe siècle, dès l'époque de la monarchie absolue, de Louis XIV, qui en a fait un outil pour montrer sa puissance aussi en Europe, dans le monde. Et aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, la gastronomie reste un élément justement caractéristique du soft power à la française, dans la mesure où, dans cette mondialisation, elle est un élément qui participe à l'image de marque de la France et à la différenciation, notamment de la France, par rapport à d'autres pays, d'autres puissances. Et donc, il y a un lien très fort, historiquement, on le voit de Louis XIV jusqu'à nos jours, un lien très fort entre la gastronomie et la diplomatie française. Depuis les banquets royaux jusqu'au dîner d'État des présidents de la Ve République, cette gastronomie a été un outil pour développer l'influence française internationale en Europe et dans le monde. Alors, d'abord, ce qu'on pourrait mettre en avant, c'est les caractéristiques ne serait-ce que naturel de notre pays, qui a une très grande diversité de reliefs, de climats, des ouvertures maritimes, océaniques, une présence aussi à travers ces dom-toms, justement, aussi sur d'autres aires géographiques. Et donc, ce qui fait quand même la très grande spécificité de cette gastronomie française, c'est d'abord une très grande diversité de production agroalimentaire qui a pu s'appuyer justement sur un potentiel agronomique et une diversité de ce qu'on appelle aujourd'hui les terroirs, hein, une diversité de terroirs alimentaires et d'abord de terroirs physiques. Mais pour expliquer justement cette influence, il ne faudrait pas se limiter simplement à cela. Dire que la gastronomie française bénéficie d'une grande réputation parce qu'elle aurait des terroirs bénis des dieux, ce serait extrêmement réducteur et très déterministe. Ce qui explique aussi cette influence, c'est d'autres facteurs, et notamment les facteurs humains. D'abord, les facteurs commerciaux, l'ouverture commerciale vers d'autres marchés de consommation. Et on le voit très bien. Alors, on parle de la gastronomie, mais quand on parle de la gastronomie, on ne parle pas seulement des nourritures solides, on parle aussi de l'association des nourritures solides avec aussi le vin et la diversité des vins en France. Et cette association, cette alliance entre les nourritures solides et le vin, hein, qui est aussi un élément très important de cette gastronomie française. Et quand on regarde comment c'est construite, à la fois la qualité et la réputation de grands vignobles français, je pense par exemple au vignoble bordelais, je pense au vignoble champenois, eh bien, c'est à travers justement cette ouverture commerciale vers d'autres marchés, que ce soit l'Angleterre pour le vignoble bordelais dès le XIIe siècle, ou que ce soit vers l'Angleterre également à la fin du XVIIe siècle pour le champagne. Hein. C'est d'abord cette ouverture qui a permis de construire la notoriété et aussi cette ouverture commerciale à inciter les producteurs à mieux travailler, à améliorer les méthodes de production, et ce qui a permis justement de faire des vins de qualité. Parce que vous aviez également une clientèle, que ce soit la clientèle d'abord à l'échelle de la France, de Paris, la clientèle aristocratique, puis plus tard la clientèle bourgeoise qui va acheter justement ces productions agroalimentaires de qualité et qui va accepter de mettre le prix pour ces achats. Et en même temps, donc cette clientèle internationale qui, tout en étant exigeante, va en même temps avoir une véritable culture gourmet et les moyens financiers de pouvoir se acheter des produits d'exception.
Donc, il y a vraiment une histoire de positionnement économique. Parce que parfois, on a tendance à dire « Ah, la cuisine française, c'est bon parce qu'on a de bons produits et de grandes recettes. Voilà, c'est comme ça et point à la ligne. » Alors qu'en fait, il y a de bons produits dans plein d'autres pays. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la raison pour laquelle notre cuisine est aussi importante à l'international, c'est que la France a su se positionner sur cette voie-là.
A su se positionner à travers notamment ces négociants, hein, ces négociants, on le voit très bien, par exemple, pour les négociants champenois, qui ont su très bien faire la propagande, hein, du champagne, par exemple, du vin mousseux de champagne. Et en même temps, donc, ce positionnement, il a pu s'appuyer sur d'autres réseaux. Je parlais tout à l'heure des réseaux diplomatiques, bien sûr, la table royale, la table aristocratique ont été des éléments qui ont construit aussi, et puis aujourd'hui les dîners d'État, des éléments qui construisent et qui participent à la construction de cette réputation. Et puis d'autres facteurs peut-être plus contemporains, comme l'influence touristique, l'essor du tourisme. La France, vous savez, est aujourd'hui la première destination touristique mondiale. C'est quelque chose de très important pour expliquer aussi cette influence de la gastronomie française. Parce que un touriste international qui vient en France, un touriste étranger qui vient en France, il vient aussi pour découvrir l'art de vivre à la française. Et parmi ses attentes, il y a justement cette découverte de la gastronomie française. Et on peut voir aujourd'hui que les pays qui ont dont la gastronomie est la plus réputée sont souvent des pays avec un développement touristique important. Je pense à la Thaïlande aujourd'hui, en Asie du Sud-Est, ça fait partie de ces pays dont la gastronomie est de plus en plus réputée. C'est aussi un pays qui a connu un fort développement touristique. Donc il y a là un lien très fort entre tourisme et gastronomie. Et en France, d'ailleurs, vous connaissez le célèbre guide, le guide Michelin, hein, qui est le guide gastronomique de référence, qui, d'un point de vue historique, hein, est très lié à l'histoire des transports, hein, et le système des trois étoiles, justement, visait à l'origine à faire en sorte que la personne qui utilisait sa voiture, et notamment le touriste, fasse le maximum de kilomètres pour découvrir un restaurant, mais surtout pour user ses pneus et acheter plus tard de nouveaux pneus Michelin.
Il y a une question que je voulais vous poser aussi, parce que je trouve ça intéressant de comparer la France à ses voisins proches. Je voulais qu'on parle ensemble de l'Italie, parce que la gastronomie italienne bénéficie aussi d'une certaine aura, c'est une cuisine bien représentée à l'international, quoique pas de façon identique selon les pays, mais en tout cas en France, on a plutôt une bonne image de la cuisine italienne, mais on se dit aussi que c'est une cuisine plutôt familiale. Et donc, comment on peut expliquer les différences entre la cuisine française et la cuisine italienne ?
Alors, je pense que pour pouvoir répondre à cette question, il faut inscrire la réflexion sur une temporalité qui n'est pas seulement l'histoire contemporaine, mais une histoire un peu plus longue. Et ce qu'il y a de commun, néanmoins, vous avez dit, ce qu'il y a de commun entre la France et l'Italie, c'est que c'est une réputation de la gastronomie qui a rayonné. Et cela s'explique en grande partie, historiquement d'abord, par le fait que ce sont des pays, la France et l'Italie, qui ont un ensemble de marqueurs culturels communs, et notamment une culture catholique commune, qui ont montré justement que l'évolution de la doctrine catholique par rapport à la gourmandise, à partir du Moyen-Âge, a favorisé finalement l'émergence dans les pays catholiques justement d'une culture de l'hédonisme alimentaire, hein, du plaisir alimentaire. Ce qui explique d'abord que dans certains pays, il y ait une culture du plaisir alimentaire qui se soit développée et que dans d'autres pays non, c'est d'abord des facteurs culturels et notamment religieux, hein, qui ont, on le voit dans d'autres aires culturelles des facteurs religieux ou philosophiques. On le voit aussi dans d'autres aires culturelles, l'influence par exemple au Japon du shintoïsme, qui a aussi largement favorisé, comme dans les pays de culture catholique, une culture de l'hédonisme alimentaire et du plaisir alimentaire. Et donc ça, c'est un élément important d'abord pour expliquer pourquoi dans certains pays, il y a eu cette culture du goût, hein, qui a pu se développer, cette distinction par le goût aussi, qui a pu se développer. La cuisine italienne et la culture gastronomique italienne a aussi, d'un point de vue historique, quand on replonge un petit peu dans l'histoire, et notamment au XVIe, XVIIe siècle, notamment au XVIe siècle, a aussi influencé la culture gastronomique française. La cuisine italienne a aussi largement influencé ce qu'on va plus tard appeler la gastronomie lyonnaise, hein, du fait de cette proximité géographique. Il y a là aussi un lien assez, assez étroit. Et d'ailleurs, voilà, cette gastronomie lyonnaise qui se veut plus populaire d'un point de vue historique que la haute cuisine parisienne. Par contre, la différence, là aussi, si on regarde l'histoire, elle peut s'expliquer par les facteurs politiques. C'est-à-dire que la grande différence entre l'Italie et la France, c'est la structure de l'État. La France, qui s'est affirmée dès le XVIIe siècle comme un État, dès le XVIe, XVIIe siècle, comme un État centralisé. Et la haute cuisine a été véritablement associée au pouvoir central, à Versailles, plus tard à Paris. Et ça, c'est une différence importante pour expliquer. Les itinéraires justement différents entre l'Italie et la France. Dans la société française, justement à l'époque de Louis XIV, donc au XVIIe, puis plus tard au XVIIIe siècle, époque de Louis XV par exemple, on est sur une gastronomie qui va être associée aux élites sociales, aux élites aristocratiques. Et là aussi, c'est ce qui va permettre l'affirmation d'une haute cuisine française, qui est une cuisine savante. La cuisine associée aux élites et souvent une cuisine urbaine. Hein. Donc il y a là aussi un élément d'explication justement de l'affirmation de cette haute cuisine française raffinée associée aux élites et notamment aux élites aristocratiques. Puis plus tard aux élites bourgeoises. Aujourd'hui, la haute cuisine française se nourrit beaucoup des cuisines régionales. Hein. Et ce qui fait souvent la spécificité des grands chefs, notamment en province, ça va être de revisiter des plats associés historiquement à la cuisine paysanne ou à la cuisine régionale et d'en faire un plat associé à la haute cuisine.
Il y a une vraie porosité alors.
Oui, vous avez des. Et ça, notamment depuis le mouvement, ce qu'on a appelé le mouvement de la nouvelle cuisine dans les années 70. Hein. Il y a, d'un point de vue historique, c'est tout à fait intéressant, ce tournant de la nouvelle cuisine où les chefs, un certain nombre de chefs vont d'abord quitter justement ces grandes villes et aller s'implanter dans des zones rurales plus isolées. Hein. Je pense par exemple à un chef comme Michel Guérard, qui a été l'un des précurseurs justement de cette nouvelle cuisine. Et vous avez donc de nombreux chefs qui ont su justement sublimer ces cuisines régionales ou ces cuisines d'origine paysanne en en faisant d'une certaine manière des cuisines savantes à travers des plats qui sont devenus des plats emblématiques de certains grands chefs.
Ça donne envie de faire un parallèle avec la mode où parfois on se demande si c'est la haute couture ou la rue qui inspire l'autre. Et finalement, il y a une porosité parfois entre les deux sphères.
Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, on le voit de plus en plus aussi au niveau... on le voit très bien au niveau des ingrédients utilisés par les chefs. Beaucoup de chefs aujourd'hui sont particulièrement créatifs sur des ingrédients relativement qui ne sont pas considérés comme des produits nobles. Hein. Là où ils sont finalement souvent les plus classiques, c'est sur des produits nobles. Hein, des produits comme la truffe, le foie gras, etc. Cette gastronomie française, non seulement a su se nourrir de la diversité de ses terroirs, du talent de ses chefs, mais aussi, et notamment le savoir-faire technique de ses chefs. Ça, il y a aussi tout un savoir-faire français qui a pu se transmettre à travers les brigades de cuisine, mais aussi à travers les livres. Hein, que ce soit les livres de recettes, il y a tout un patrimoine des plats emblématiques justement de cette haute cuisine française qui ont pu se transmettre à travers ces restaurants, à travers ces livres, etc. Mais ce qui permet aussi d'expliquer ce rayonnement et cette position de la haute cuisine française, c'est sa capacité aussi à se nourrir d'autres cuisines, que ce soit à travers des préparations, des types de préparations, ou à travers l'intégration d'ingrédients venant d'ailleurs.
Alors, j'allais justement vous parler de la colonisation, puisque j'imagine que ça fait partie des éléments qui ont permis à la France de se frotter à plein d'autres cuisines, de s'inspirer, de revenir avec des produits et des idées.
Ah, de revenir avec des idées, bien sûr, et de proposer aussi, je pense, un exemple assez intéressant, c'est... Voilà, le cas du baba au rhum. Le baba au rhum, c'est une pâtisserie française assez connue, qui, pour l'histoire, est apparue justement en Lorraine, à la cour du duc de Lorraine, qui était l'ancien roi de Pologne, Stanislas Leszinski, qui était d'une certaine manière aussi rattaché au roi de France, puisque c'était son beau-père. C'est à la cour de Stanislas Leszinski justement que on va créer cette pâtisserie. Mais au départ, c'était un baba associé, donc un gâteau associé arrosé par du vin de Malaga. Et puis colonisation oblige, on a eu l'idée justement de remplacer cela par le rhum. Bien entendu. La colonisation, elle a joué aussi un rôle très important dans le développement aussi de l'intégration de nouveaux produits dans notre culture gastronomique. Je pense bien sûr au café, au chocolat, hein, qui ont pu se développer dès, pour le cas du chocolat, dès le 17e et 18e siècle, hein, dans notre culture. Et donc, bien entendu, d'autres produits encore, je pense à la vanille et, ou encore d'autres produits exotiques qui ont été intégrés dans notre culture, eh bien, sont arrivés grâce justement à la colonisation.
Donc en fait, on parle de la gastronomie française comme d'un soft power du pays, mais ce soft power, pour exister, il a aussi eu besoin d'une influence politique, économique, et tout ça est allé avec des velléités coloniales.
D'une certaine manière, c'est très lié quand même à l'histoire des les produits qui ont été au niveau de la cuisine et au niveau de la gastronomie les plus enviés sont souvent des produits qui sont venus de loin, hein, des produits exotiques. Pourquoi? Parce que c'est des produits rares et donc des produits chers, et donc des produits que les élites sociales ont d'une certaine manière plébiscité. Alors l'un des produits emblématiques justement de la haute cuisine pas seulement française, mais européenne au Moyen-Âge, c'était les épices. Justement parce qu'elles venaient de loin, elles étaient chères, et donc elles étaient un produit qui était particulièrement, et un produit exotique, qui était particulièrement recherché sur les tables aristocratiques. C'est un élément qui est important pour expliquer justement l'évolution de la haute cuisine, c'est cette volonté de toujours de découvrir de nouveaux produits, de nouveaux ingrédients, de les intégrer dans notre culture gastronomique, et cela justement par les élites, parce que ce sont ces élites qui ont, d'une certaine manière, à un moment donné, payé le prix justement pour intégrer ces ingrédients dans notre cuisine.
On l'a vu avec Vincent Marcillac, pour qu'une gastronomie soit mise à la carte, il faut au préalable des relais économiques et politiques, des choix stratégiques et un pan de l'histoire en faveur de sa course. C'est ce dont la France a pu jouir, mais c'est aussi ce qui a fait défaut, par exemple, au continent africain. Chef Anto, qui connaît aussi bien le Gabon que la France, en sait quelque chose. À notre micro, elle partage avec nous son expérience et son regard critique sur le sujet.
J'ai vraiment vu l'importance de la cuisine française, c'est quand on a fait le programme d'échange universitaire. Parce que Ferrandi est en partenariat avec différentes écoles un peu partout dans le monde. Et là, j'ai fait un programme d'échange avec une école d'art culinaire aux États-Unis. Donc, on est parti presque un an aux États-Unis avec deux autres camarades de classe. Et lorsqu'on est arrivé, les Américains étaient en fait éblouis parce que c'était ce sont les Français qui... Ils sont arrivés et c'est vrai qu'il y avait, on s'est rendu compte vraiment de la richesse du savoir-faire français qui est très recherché, en tout cas ailleurs, et qui est vraiment reconnu. Et on s'est vraiment rendu compte de la chance qu'on avait de pouvoir avoir en tout cas fait des études de cuisine ou d'hôtellerie-restauration en France. Et je le vois même en Afrique, hein. Même en Afrique, dès qu'on dit que c'est un restaurant français, tout de suite. Ça fait prestigieux. Quand on ouvre une école de cuisine, c'est une école, on y apprend la cuisine française, c'est incroyable. Mais vous allez au Sénégal, une école de cuisine, les étudiants vous demandent c'est quoi le programme? C'est le programme de cuisine française. Parce que c'est la référence. Vous devez connaître la cuisine française, après vous avez le droit de connaître le reste, mais c'est d'abord la France.
Oui. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que par moment, il y a même des restaurants français qui sont très très cotés à l'étranger ou en tout cas très bien vus, qui ont une image de marque. Mais c'est pas forcément toujours les meilleurs restaurants. C'est-à-dire que la réputation est devenue tellement forte qu'aujourd'hui, elle devient un argument marketing envers et contre tout, même à l'étranger.
Ah non, mais ça c'est complètement. Je me rappelle d'un ami canadien qui lui, il avait une crêperie au Canada depuis des années. Et le jour où un Français est venu ouvrir sa crêperie en face, il a dit c'est mort. Et je lui disais, mais tu peux dire c'est mort. Il a dit non. Dès que les gens entendent français, pour eux, même sans avoir goûté, même si c'est pas bon, c'est, voilà, tout de suite, c'est waouh. Alors moi, je dis toujours, les Français, ils ont le savoir-faire, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais le fait de connaître d'autres cultures culinaires permettent de pouvoir avoir encore plus de créativité. Et c'est ça aussi la force des Français qui vont à l'étranger, c'est qu'après avoir acquis le savoir-faire français en France, ils usent de la créativité pour pouvoir adapter à l'environnement où ils se trouvent. Alors après, des Français qui ont goûté en France, quand ils vont aller là-bas, vont dire, bah non, c'est pas complètement français. Et moi, je sais, hein, plusieurs fois aux États-Unis, ils disaient French Madeleine. Et je disais, bah non, en fait, c'est pas français, ça. Parce que la couleur, la bosse, et je disais, bah, il y a plein de codes comme ça qu'on ne retrouve pas dans la Madeleine. Et pareil, vous avez French Toast, qui est une sorte de croque-monsieur. Et je me disais, mais non, en France, on ne fait pas ça comme ça. Mais en fait, ils ont adapté. Ils ont adapté. Ce n'est pas forcément, c'est sûr, hein, pour quelqu'un qui connaît le vrai goût français, ce n'est pas forcément transcendant. Mais là-bas, comme on dit c'est français, bah, tout de suite, ça a du cachet. Tout de suite, ça justifie même le prix élevé. Tout de suite, ça fait plus chic. Et ça, franchement, on le voit dans quasiment tout. Les continents.
Par exemple, vous êtes d'origine gabonaise et aujourd'hui, avec cette formation avec Ferrandi, voilà, que vous avez suivie ici en France, comment vous faites pour à la fois utiliser ce que vous avez appris dans cette grande école et en même temps, voilà, vous tournez aussi vers des recettes de cuisine qui viennent plutôt de votre culture d'origine, de votre culture familiale?
En fait, vu que moi, je travaille en France et que ma clientèle en France, notamment en région parisienne, est à 90% européenne, je veux dire blanche, je veux dire, ils sont habitués à certains codes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, de cuisine africaine ou de gastronomie africaine, beaucoup ne connaissent pas et souvent, ça peut faire un peu peur parce que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et donc, pour pouvoir créer le pont entre ces deux cultures, il me fallait, moi, utiliser les produits d'Afrique, les plats traditionnels, mais les travailler avec des techniques, justement, que j'ai apprises à l'école, pour pouvoir, ne fût-ce que visuellement, correspondre au code de la cuisine française. Donc, quand on dit code, c'est le visuel, il fallait que visuellement, ça donne envie. Que visuellement, les couleurs aussi, ça donne envie. Il fallait voilà, avoir la texture, parce qu'on parle souvent de croquant, fondant, croustillant. Il fallait aussi apporter ça au plat. Il fallait aussi, en termes de structure, voilà, avoir faire du graphisme avec les aliments et tout ça. Et ça, ce sont des choses que j'ai acquises, en tout cas, à l'école de cuisine Grégoire Ferrandi, ça c'est sûr. Et pour pouvoir faire le pont. Et ce qui fait que quand je pose même la question à certains clients, mais habituellement, est-ce que vous allez dans des restaurants africains? Et qu'ils me disent non, je leur demande mais pourquoi? Et souvent, la réponse était, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On ne connaît pas visuellement, ça n'a pas l'air attractif, on a l'impression qu'il y a trop de piment. Donc, toutes ces informations m'ont permis de me dire, mais en fait, on est en France, si je veux que les Français me comprennent, il faut que je parle leur langage. Et le langage en France, c'est la présentation, c'est les couleurs, il faut que ça soit graphique, il faut que ça soit beau visuellement, il faut que ça ait du goût, il faut qu'il y ait de la texture. Et donc, il fallait retravailler justement les plats traditionnels, avec tous ces codes pour pouvoir proposer aux clients quelque chose qui visuellement, en tout cas, leur parle et leur donne justement envie de découvrir.
Ça doit être un vrai travail de créativité et qui demande beaucoup de rigueur, d'essayer à la fois donc, de garder l'âme de ces cuisines africaines et précisément gabonaises et d'appliquer ça à ces codes français pour essayer donc de faire venir chez vous une clientèle plus traditionnelle. Est-ce que vous pensez que, quelque part, parfois, les gens peuvent un petit peu manquer d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que ces codes-là dont on parle, ce standing français, est tellement hégémonique que c'est souvent donc aux cuisines d'ailleurs d'essayer de rentrer dans ces codes-là et que finalement, ben, il y a encore peut-être parfois une frilosité à découvrir des nouvelles cuisines et aussi des nouveaux codes tout entiers.
Ben, c'est souvent hein, ce que mes frères africains me disent. Hein, pourquoi c'est toujours à nous de changer? Pourquoi ils ne s'adaptent pas directement? Et moi, je leur dis, vous savez, on est en France. Ici, vous allez en Chine et que vous voulez qu'un Chinois vous comprenne, vous devez parler son langage. Quand on voit avec les cuisines asiatiques, vous remarquerez que ce qu'on mange dans les restaurants chinois en France ne sera jamais la même chose que ce qu'on mangera dans les restaurants chinois aux États-Unis, par exemple, ou dans un autre pays, parce que ce qu'ils ont fait, les Chinois, c'est d'adapter leur cuisine en fonction du pays où ils se trouvent. Maintenant, si vous voulez vraiment manger chinois avec les codes vraiment de la cuisine chinoise, ben, vous allez en Chine. Et du coup, ici, pour pouvoir créer une ouverture et intéresser les gens, parce que moi, je suis contente quand à la fin d'un repas, j'ai des clients qui me disent « Vous nous avez donné envie d'aller là-bas », c'est parce que, en fait, je leur ai parlé avec les codes qu'ils connaissent.
Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la place qu'occupe la France sur le podium des cuisines à travers le monde? Est-ce que vous pensez qu'il y a des cuisines qui gagneraient à être davantage connues? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce podium-là, il change un petit peu, en tout cas un peu dépoussiérer ce classement?
Ben, en tout cas, la France a sa place. La France a sa place parce qu'on voit, quand on s'intéresse en tout cas à l'histoire de la gastronomie française, on se rend compte de tout le travail qui a été fait concernant en tout cas le patrimoine culinaire, concernant le terroir, les produits du terroir et tout ça. La préservation, on le voit encore avec tous les produits d'appellation d'origine. Il n'y a pas beaucoup de pays où il y a des appellations d'origine. C'est-à-dire que les Français sont très attachés en fait à leur patrimoine, à leur façon de travailler les produits, à leur savoir-faire, à leur façon de cultiver certains produits. Donc c'est sûr, ils ont leur place. Maintenant, moi, ce que je pense, et c'est là où, quand je dis ambassadrice des cuisines d'Afrique, par exemple, ce que je parlerai pour les cuisines africaines, c'est qu'il faut s'inspirer de pays comme la France qui ont défendu avec bec et ongles la culture, en tout cas, qui ont défendu leur culture culinaire, qui ont défendu leur patrimoine, qui ont codifié aussi les cuisines, parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit une salade niçoise, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous pouvez mettre après ce que vous voulez, mais la vraie salade niçoise, elle doit être comme ça. Si vous voulez faire un bœuf bourguignon, le vin, il doit venir de Bourgogne. Et en général, c'est un vin de ce type. Il y a vraiment des codes. Aujourd'hui, il y a pas beaucoup de pays où c'est aussi codifié comme en France. Donc, les pays, en tout cas, qui veulent être reconnus, qui veulent gagner, en tout cas, qui veulent concurrencer la France sur le podium, devraient s'en inspirer, défendre leur culture culinaire, leur patrimoine, leurs produits, préserver aussi la façon de cultiver et peut-être créer aussi des appellations d'origine pour que les produits soient uniques. Parce qu'on le voit, il y a une transmission, un savoir-faire ancestral qui dure depuis des générations et des générations en France, alors que dans certains pays, c'est des choses qui se perdent. Moi, je le vois, par exemple, dans certains pays d'Afrique, il y a des choses comme ça, un savoir-faire qui se perd parce qu'il n'y a pas de transmission, parce qu'il y a une cassure, parce que la personne est décédée avant d'avoir transmis, enfin, plein de choses comme ça.
Et selon vous, comment peut-on expliquer que les cuisines africaines soient, même si c'est en train de changer, encore un peu dans l'angle mort finalement des cuisines dont on parle médiatiquement à l'international?
Bah, déjà, l'une des choses, c'est la formation. Parce que comme je vous disais, en France, quand vous intégrez une école de cuisine, vous apprenez la cuisine française. Les bases de la cuisine française, l'histoire des produits, les régions, ça je me rappelle, j'en ai mangé les régions, les apprendre, les cépages pour les vins, les fromages et tout ça, la qualité de la terre dans toutes les régions, on apprend ça. Le problème en Afrique aujourd'hui, c'est que quand on entre dans une école de cuisine, vous apprenez la cuisine française. Vous n'apprenez pas les bases de la cuisine du pays dans lequel vous êtes. Vous n'apprenez pas à travailler les produits du pays dans lequel vous êtes. Et ça, ça fait que quand les gens sortent, en fait, ils ne pensent pas qu'avec leur cuisine traditionnelle, on peut faire de grandes choses. Donc, il y a, ça, c'est aussi un problème en dehors de la transmission, parce qu'il y a aussi le côté transmission qui fait que dans la tradition africaine, en général, on transmet de mère en fille. On va vous dire, les garçons n'ont rien à faire en cuisine. Alors que quand vous allez dans les écoles de cuisine en Afrique, bah, qui sont là-bas ? Ce sont les garçons. Il y a très peu de filles. Ou quand vous avez des filles, après, elles abandonnent parce qu'elles se disent que ce n'est pas compatible avec une carrière et une vie de famille. Donc, il y a toutes ces choses, en fait, quand on les aligne bout en bout, fait que nos cuisines n'arrivent pas à avancer. Ici, vous avez la formation des jeunes dès la classe de 3e, des écoles professionnelles pour ça. On leur enseigne les bases. On leur apprend à créer. Il y a des concours qui fait qu'ils peuvent exprimer leur créativité. Et donc, ils ont la tradition et ils ont la modernité et ils peuvent allier les deux. Nous, la tradition, on la met d'un côté, on la garde pour la maison. Et la modernité, c'est ce qu'on apprend à l'école. C'est la cuisine française qu'on apprend à l'école. Et du coup, on se retrouve un peu, lorsqu'on veut travailler, ben, la plupart, ils ouvrent des restaurants français. Parce qu'ils se disent, ben, c'est ce que les gens veulent manger, c'est ce que les gens aiment, et c'est ce qui fait, c'est ce qui explique notre retard. Et je suis contente de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes commencent à prendre conscience de l'importance de pouvoir garder, revaloriser nos produits, s'intéresser au patrimoine culturel, culinaire, et de pouvoir commencer à le travailler. Mais souvent, les gens me disent, mais pourquoi dans nos écoles, on n'a pas un module où on ferait que ça, travailler nos propres produits. Donc ça, après, il faut que ça soit une volonté gouvernementale. Ça, c'est encore une autre histoire.
Oui, il faudrait que ce soit soutenu, oui, qu'il y ait une volonté politique derrière pour aller dans ce sens.
Bien sûr.
Ce que vous dites est très, très fort. Oui, c'est vrai que c'est incroyable de se dire que dans tant d'écoles, dans plein de pays, c'est avant tout la cuisine française qu'on apprend, aussi intéressante soit-elle, mais sans forcément ouvrir les fenêtres et prendre le temps d'étudier aussi ce qu'on a localement.
Bien sûr, mais il n'y a qu'à voir même le président de la République. Le chef de cuisine à la présidence de la République au Gabon, le chef de cuisine, c'est un Français qui vient de l'Élysée. Vous imaginez ? Alors qu'ici, en France, il serait inconcevable qu'à l'Élysée, le chef des cuisines soit une personne étrangère. Et même, je discutais avec le chef des cuisines de l'Élysée, le chef Guillaume Gomez, qui disait, lui, il a des origines espagnoles, mais quand il doit commander des produits pour l'Élysée, ce sont des produits français, parce que c'est la France qu'on doit mettre en avant. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette culture où c'est nous d'abord. Alors que pour l'instant, en Afrique, il n'y a pas vraiment cette conscience qui est vraiment tellement marquée qui fait que, dans toutes les instances de l'État, on se dit d'abord nos produits et après on verra.
Oui, c'est comme si finalement la cuisine française était le label de la haute cuisine par excellence.
Oui, c'est gage de qualité. Et ce qui est dommage, c'est que vous pouvez avoir, et ça c'est le revers, vous pouvez avoir un chef français qui est vraiment, je veux dire, pas bon, qui est incompétent, mais parce qu'il est français, on lui donnera plus de crédit qu'un chef local et qui a, même s'il a fait une grande maison. Et c'est ça qui est dommage aussi. Il y a vraiment tout un système à revoir. Et en tout cas, pour ça, moi, je dis à la France chapeau, parce qu'ils ont bien réussi. Enfin, c'est quelque chose qui est tellement marqué dans les consciences que les gens le font même naturellement sans s'en rendre compte.
Tout à fait. Et heureusement, progressivement, les choses sont en train de changer. Alors déjà, parce qu'il y a des personnes comme vous qui portent une voix différente, qui proposent davantage de ponts. Et je lisais aussi que en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un centre culinaire qui a ouvert à Abidjan précisément, qui s'appelle le PANAF, et qui propose former au métier de la restauration des jeunes avec les recettes du continent.
Oui, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais malheureusement, ce sont souvent des initiatives privées Parce que dans les, mais il faut qu'il y en ait de plus en plus. Et c'est pour ça que je dis que je suis contente parce qu'aujourd'hui, et même je le vois avec les jeunes de la diaspora qui sont en France, qui sont dans des écoles de cuisine françaises et qui se retrouvent avec cette double culture parce qu'au final, même s'ils sont nés en France, même s'ils ont grandi en France et qu'ils ont été dans des écoles de cuisine françaises, ben, ce sont des métis culturels parce qu'à la maison, avec des parents issus de l'immigration, ils ont une autre façon de manger. Et du coup, eux, quand ils sortent de l'école de cuisine, bah, ils ont une double culture. Et cette double culture, c'est ce qu'ils voudraient exprimer dans leur façon de cuisiner. De toute façon, on en aura de plus en plus de jeunes comme ça. Et d'ailleurs, souvent, les jeunes, quand on va, quand je fais la rencontre des chefs de demain chaque année avec la Fondation pour l'innovation et la transmission du goût, souvent, on a justement ces jeunes-là qui sont partagés entre leurs deux cultures, qui me demandent souvent « est-ce que je dois choisir ?» Et je dis non. Quand vous cuisinez, vous racontez votre histoire. Donc, si votre histoire, ce sont ces deux cultures, c'est comme un enfant métis, on ne lui demande pas de choisir son père ou sa mère. Il est le résultat des deux.
En plus d'être un art de vivre, la gastronomie est un secteur économique. Et c'est ce qui rend si palpable l'intérêt qu'a aujourd'hui un pays à cultiver et valoriser ce soft power qui, en plus d'être un pilier de son ADN à l'étranger, irrigue un secteur aussi florissant que celui du tourisme. Pour le restaurateur britannique Peter Taylor, il est évident que la France est le pays du bien manger. Celui qui gère l'auberge Chassignol en Auvergne depuis quelques années estime que les scènes gastronomiques d'aujourd'hui sont nombreuses à revendiquer une même attitude, celle d'une attention portée aux produits et d'un métissage culinaire qui emprunte à différents endroits du globe. Selon lui, le modèle français a tellement infusé historiquement la cuisine anglaise qu'aujourd'hui, les cuisines contemporaines des deux pays tendent à se ressembler.
Franchement, il y a de moins en moins de différences parce que en Angleterre, c'est la tradition de cuisine française, c'est très fort. Les grands chefs étoilés en Angleterre, ça, c'est normalement, ils utilisent la cuisine classique française comme une base aussi. Je pense que la cuisine en Angleterre, ça évolue un peu. Avec la cuisine française, mais aussi avec les cuisines d'autres pays, d'Europe en général, d'Italie, mais aussi de la cuisine asiatique. On mélange un peu, comme partout, mais en Angleterre, la tradition de la cuisine anglaise, c'est pas, ouais, c'est forte, mais c'est pas super raffiné. Mmh. Franchement, donc il y a des gens qui utilisent la cuisine française comme une base avec laquelle on met les cuisines peut-être asiatiques. C'est le produit qui est important, mais c'est la technique qui est surtout plutôt française.
Un savoir-faire historique, une littérature qui a universalisé ces techniques, un pouvoir de prescription lié à une histoire coloniale. Oui, la gastronomie française s'est imposée comme figure d'autorité internationale. Mais dans un monde où l'on promeut aujourd'hui une créativité culinaire autour de produits locaux et de saison, les cuisines ont tendance à être de moins en moins nationales et de plus en plus de terroirs. De ce point de vue, la place systématique de la viande dans les recettes françaises n'est peut-être plus qu'un vestige passéiste de vieilles traditions. Dans cet avenir, l'indéboulonnable cuisine française aura pour défi d'actualiser ses enjeux et peut-être de dépoussiérer un peu ses habitudes. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Laura Cuissard et les coups de main de Clara Maté. Montage par Marine Rowe, mixage par Thomas Decourt, générique réalisé par Aurore Meyer-Maillot.